C'est la raison pour laquelle cette année nous avons créé ce cycle auquel vous participez ce soir, qui met en dialogue la philosophie et le monde de l'entreprise. Parfois, ce sont des dialogues difficiles parce que ce sont des dialogues qui se tiennent dans des langues différentes. Et donc, il est nécessaire de concilier aussi ces langues pour les faire sortir de la confusion des langues. Et la question qui nous rassemble ce soir est particulièrement importante de ce point de vue, puisqu'il s'agit donc de l'accueil des jeunes dans l'entreprise, de l'apport des jeunes dans l'entreprise. Et c'est une question qui se pose du fait du très important renouvellement des générations que nous connaissons. Et ce soir, donc, les invités et les orateurs, si j'ose dire, témoignent particulièrement de ce souci de dialogue de l'entreprise et de la philosophie. Et donc Isabelle Bourgade, qui est, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est directrice ou directrice adjointe du CIC Rhône-Alpes, qui a une formation de juriste et qui a beaucoup travaillé dans le développement des ressources humaines, à partir de ses responsabilités donc dans le CIC Rhône-Alpes, un point de vue très global et sur la question de l'accueil des jeunes, d'autant plus que, comme toutes les entreprises, ils ont eu à connaître le départ d'une génération et la nécessité de recruter des nouvelles pousses. Mathilde Nejlen est philosophe de naissance. Elle vient ce soir comme une illustration de la présence de la jeunesse dans le monde de l'entreprise, parce que après la philosophie, elle s'est tournée elle-même vers le monde de l'entreprise. Elle travaille actuellement donc dans le domaine du conseil en ressources humaines et elle est venue ce soir accompagnée du plus jeune d'entre nous. Et Marc Gaucheran, lui, est philosophe, professeur de philosophie. En outre, il a été pendant 6 ans ou 7 ans directeur de Sainte-Marie-Lyon, ce qui est une énorme entreprise qui rencontre tous les problèmes de l'entreprise. Il a aussi participé à l'aventure de cette école de commerce que fut Estrade il y a quelque temps. Et donc, il est particulièrement compétent pour mettre en dialogue le monde de l'entreprise et celui de la philosophie. Je précise une dernière chose. Nous avons au Collège supérieur des habitudes un peu archaïques, mais qui arrangent tout le monde. C'est celle de la ponctualité. Vous avez remarqué que nous avons commencé à l'heure et nous finirons à 21h59.
Merci bien, Jean-Noël. Alors, nous allons notre rencontre va s'organiser en 3 temps. Un premier temps, chacun d'entre nous va vous proposer un propos liminaire pour lancer en quelque sorte la réflexion. Ensuite, nous tâcherons d'éclairer un petit peu entre nous les échanges. Jean-Noël Dumont parlait de vocabulaire, d'ajustement de vocabulaire. Ça sera certainement nécessaire. Pour ma part, je vais peut-être prêter le flanc assez rapidement à des critiques, parce que aborder l'entreprise du point de vue philosophique, ça n'est pas simple. Je me suis posé quand même quelques questions en préparant justement ce propos liminaire. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, nous vous laisserons la parole pour un échange plus large. Et donc, préparez-vous pour des questions, parce que c'est ce qui nous permettra, si vous voulez, donc de nourrir notre échange et notre réflexion commune ce soir. Alors, j'ouvre en quelque sorte le bal ce soir avec la remarque très simple. Jean-Noël Dumont disait que j'avais travaillé effectivement en école de commerce. Je suis à nouveau actuellement, en termes d'enseignement, dans des filières en licence, dans des filières à vocation professionnelle pour des étudiants. Et donc, l'entreprise, pour l'étudiant moyen que l'on a, eh bien, au fond, apparaît ou est représentée comme un Eldorado, finalement. c'est-à-dire comme une terre à atteindre, qui promet beaucoup, qui déçoit parfois, je pense au retour de mes étudiants en stage ce matin même, avec un certain nombre de difficultés pour certains d'entre eux, donc un certain nombre de déceptions, voilà. Mais ils y vont, et nous en parlions il y a quelques minutes, ils sont partis en stage et beaucoup ont vécu le stage avec beaucoup de mobilisation, de générosité, d'engouement, d'enthousiasme, etc. Et le climat général, malgré quelques difficultés et désillusions, était celui-ci ce matin au retour des jeunes à 8h30 lors de la reprise des cours après donc plusieurs semaines de stage. Voilà. Et donc, c'est Eldorado pour des stages, c'est Eldorado pour un somme de projets qui les conduisent à prendre des contacts, à établir des relations professionnelles, etc. Et puis, évidemment, pour leur vie professionnelle, ce qui passera par des missions de fin d'études aujourd'hui, en général longues, ensuite recherche de job, etc. Donc, on aura l'occasion de revenir sur cela tout à l'heure. Alors, Je voudrais, dans ce propos liminaire, essayer de situer de façon assez générale et en dehors de considérations pragmatiques, justement, au fond, l'entreprise dans le parcours humain d'un jeune. Et on s'aperçoit assez vite que cela donne lieu à un retournement, ce qui m'arrange en tant que philosophe, parce que je vais pouvoir bâtir une petite réflexion dialectique. Ce qu'est l'entreprise en un certain sens, eh bien, c'est-à-dire comme un point d'aboutissement, un Eldorado, etc., se retourne quand il arrive parce qu'il y arrive tout jeune, frais et moulu, comme un débutant, et donc, au fond, comme il arrive à l'école quand il débute, ou en quelque sorte petit enfant dans une famille, parce que tout reste à découvrir, tout reste à apprendre, etc., quand on arrive à l'entreprise. Et donc, ce qui apparaît comme un point d'aboutissement est en même temps un point de démarrage. Et donc, je vais broder un petit peu autour de cela dans ce propos liminaire. Première étape, donc, quelques mots à propos de l'entreprise comme aboutissement. Effectivement, dans le parcours de tout jeune, commençant par la famille et passant par l'école, eh bien l'entreprise apparaît comme une troisième étape dans sa vie, et cette étape correspond en même temps à l'aboutissement du parcours éducatif, du processus éducatif. Commencé dans la famille, poursuivi dans l'école, qui de ce point de vue-là joue un rôle de médiation, si vous voulez, et achevé en quelque sorte, comme si on en avait terminé, lorsque l'on va rentrer dans l'entreprise. Pour ceux qui vont dans l'entreprise, on pourrait dire la même chose pour ceux qui deviennent enseignants le jour où ils ont leur poste d'enseignant, que sais-je, etc. Mais de ce point de vue-là, l'entreprise apparaît bien. Alors pour un nombre considérable de jeunes, parce que c'est un débouché proportionnellement le plus important, je dirais, en termes d'insertion, apparaît bien, si vous voulez, comme l'étape finale d'un parcours éducatif qui est en même temps un parcours d'initiation, un parcours où le jeune devient adulte. Voilà. Enfance, jeunesse, âge adulte, en fait, on pourrait lier cela à la famille, l'école, l'entreprise. Hein. Et on peut, de ce point de vue-là, si vous voulez, à nouveau, en situant l'école au milieu, eh bien, s'amuser à opposer un certain nombre de qualificatifs. La famille est un milieu fermé, alors que l'entreprise est un milieu ouvert, on y reviendra. La famille est un milieu intime, alors que l'entreprise, eh bien, est en un milieu public, si vous voulez. La famille est familière, alors que l'entreprise est faite d'étrangers. Hein, ce ne sont pas des gens, je ne les connais pas. J'arrive là, il va bien falloir que je travaille avec eux, que je vive avec eux, mais je ne les connais pas. Je ne les ai pas choisis, etc. La famille est un milieu local, alors que l'entreprise est délocalisée, entre guillemets. Trois petits points de suspension. Bref. Et donc, l'école, de ce point de vue-là, à nouveau, eh bien, je dirais, est une, si vous voulez, un moment de médiation, qui fait passer, si vous voulez, de ce milieu d'intimité à ce milieu d'ouverture, d'extériorité, qui est celui de la vie professionnelle en général et de l'entreprise, qui est une bonne illustration de cela en particulier. De ce point de vue-là, eh bien, je l'indiquais, au fond, l'entreprise apparaît comme un terme. Elle apparaît aussi comme une figure du monde, deuxième caractéristique, me semble-t-il, dans ce processus. L'entreprise est une figure du monde pour les jeunes, elle en a les caractéristiques, c'est un microcosme en quelque sorte du monde à travers sa diversité, par exemple. nous en parlions tout à l'heure, je dirais dans l'entreprise, il y a toutes sortes de publics, il y a des jeunes, des moins jeunes, des personnes plus âgées, il y a des, évidemment, c'est un public mixte, et puis il y a toutes sortes de catégories sociales avec des gens plus favorisés, des autres moins favorisés dans les différents niveaux de la hiérarchie, des compétences très variées, et puis des gens d'origine très variée aussi sur un plan socio-culturel. D'ailleurs, beaucoup plus variés que dans les écoles. Les écoles, de ce point de vue-là, eh bien, sont beaucoup plus homogènes parce que du fait de la carte scolaire et puis, je dirais, du fait du choix des familles, etc., eh bien, l'école est un milieu relativement homogène, alors que l'entreprise, dès qu'en tous les cas, il y a une diversité de personnel, et par exemple un personnel d'encadrement, et puis un personnel d'exécution, etc., je ne parle pas de cabinet de conseil ou autre, où là, je dirais, on est purement dans la matière grise, mais dès qu'on est dans une entreprise un peu importante avec une diversité de personnel, eh bien, on a justement cette diversité qui est caractéristique du monde. C'est un microcosme de ce point de vue-là qui implique l'adaptation. C'est aussi la rencontre avec la réalité, si vous voulez, au sens d'un certain travail qui transforme le monde. Ah, c'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est le moment où ce que l'on va faire, en particulier à travers le travail, eh bien, a des conséquences. Alors que, au fond, dans l'école, parce qu'on est encore dans une communauté éducative, ce que l'on fait a des conséquences, mais qui ne sont pas irrémédiables. Je dirais, on peut se reprendre comme dans la famille, parce que justement, on est dans un milieu éducatif, l'enfant va être, par exemple, puni, etc. Et donc, comme on dit, on remet les compteurs à zéro et on repart pour un nouveau tour, etc. Et au fond, une bonne école, eh bien, c'est une école, je dirais, qui a suffisamment de patience pour assumer un enfant longtemps, malgré, je dirais, parfois une accumulation de bêtises, etc. Mais voilà, qui est capable d'assumer, justement, à travers cette patience, etc. L'entreprise n'a absolument pas cette patience, me semble-t-il. Voilà, et ça n'est pas son rôle. Il y a, de ce point de vue-là, une sanction du réel. Et donc, effectivement, le jeune va rencontrer le réel dans l'entreprise. Je pense, j'ai certains échos, justement, des retours de stage, alors que cette sanction existe beaucoup moins dans l'école et dans la famille. Troisième caractéristique, mais on pourrait, je dirais, en citer bien d'autres, la caractéristique de société de l'entreprise. C'est aussi un microcosme de ce point de vue-là, au sens où l'entreprise est une société de contrat et elle est bien caractéristique, si vous voulez, de notre société tout entière. C'est-à-dire qu'au fond, elle met en contact des gens qui sont des agents égaux en termes de contractualisation, alors que dans la famille et à l'école, eh bien, les enfants, les jeunes ne sont pas à égalité avec leurs professeurs ou leurs parents. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que, je dirais, il n'y a pas de hiérarchie, etc. Mais, simplement, le jeune devient contractant dans l'entreprise, et de ce point de vue-là, c'est un adulte, un agent contractant, alors que dans l'école ou, je dirais, à la maison, dans la famille, il n'a pas ce statut du tout. Donc, on voit bien que là, il passe, effectivement, on a une frontière, il passe du côté adulte. Voilà. Une figure du monde, donc. Dans l'entreprise, le jeune devient acteur du monde. Autre caractéristique. L'entreprise est un terme, c'est une figure du monde. Le jeune devient acteur du monde au sens, si vous voulez, où il agit dans le monde, il transforme le monde. C'est le propre, si vous voulez, donc du travail, donc comme caractéristique essentielle de la modernité. Hein, l'homme se réalise dans le travail et par ailleurs, je dirais, à une vérification de cette réalité dans cette transformation du monde qui lui renvoie justement ses actes, hein, comme en quelque sorte une preuve de ce qu'il est. Et donc, l'entreprise, de ce point de vue-là, eh bien, est un lieu essentiel, si vous voulez, de vérification, d'actualisation et de vérification de ce que l'on est dans la réalité, parce qu'il y a à nouveau bel et bien transformation de la réalité. Et donc, l'échec peut être possible, irrémédiable, etc., mais la réussite possible aussi, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, dans l'entreprise, le jeune, et c'est ce que l'on entend souvent, justement, dans leur souhait de faire des stages et dans leur goût pour les stages, etc., c'est le fait de passer, justement, à ce niveau juste de réalisation dans le monde, de capacité à être acteur dans le monde, cette capacité en quelque sorte, à transformer le monde. Et de ce point de vue-là, j'indiquais que c'était une marque de la modernité. Au fond, la modernité a fait du travail, a valorisé le travail, alors qu'auparavant, ce qui faisait l'homme et ce qui faisait sa noblesse, son honneur, c'était la guerre, c'était les armes, etc. La modernité a remplacé justement la guerre par le travail. Et donc, c'est une marque essentielle et aujourd'hui encore incontournable, la généralisation du travail féminin le prouve abondamment, de ce lieu de réalisation de soi. Et donc, on a bien à nouveau ici un terme qui est à atteindre pour les jeunes comme, au fond, l'entrée véritablement dans le monde adulte et la sortie donc de l'enfance, de la jeunesse, etc. Alors, j'évoquais un renversement, je l'opère rapidement. L'entreprise, en même temps, eh bien, pour la jeunesse, par exemple en stage, mais aussi lors des missions de fin d'études, on a de plus en plus, me semble-t-il, de séquences justement qui ménagent des sas entre la vie scolaire, universitaire, la vie d'école, etc., et puis la vie professionnelle, donc à travers des missions de fin d'études qui n'en finissent pas, maintenant des contrats adaptés. Je suis persuadé que donc là, les autres intervenants aborderont ces points-là, donc on en reparlera ensuite. Mais donc, l'entreprise apparaît aussi comme un lieu, évidemment, nouveau, neuf, à découvrir, à intégrer, ou, en un certain sens, tout est à apprendre, et finalement, comme un lieu de formation. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, les jeunes quittent, à travers la famille et l'école, un lieu de formation, croyant, en quelque sorte, accéder à la vie adulte, mais s'aperçoivent que l'école est aussi un lieu de formation, et il n'y a pas qu'eux qui s'en aperçoivent, les professionnels eux-mêmes dans l'entreprise se rendent bien compte, je dirais, de la nécessité justement de former à la vie professionnelle des jeunes frais émolus donc de l'école, dotés certes d'un savoir théorique, qui sont des savoirs généraux par rapport à l'entreprise donnée, qui sont des savoirs en général périmés, parce que au fond on enseigne essentiellement, sauf en recherche, des savoirs périmés, mais ça c'est le propre de la, de la formation intellectuelle, on ne peut pas faire autrement, c'est impossible d'enseigner les savoirs les plus actuels, les professeurs ne les comprendraient pas, raison pour lesquelles on a abandonné par exemple les mathématiques modernes. Moi j'étais à l'époque des mathématiques modernes, ça a duré quelques années, et puis comme les professeurs n'y arrivaient pas, donc on a arrêté, et donc on est revenu sur des mathématiques plus classiques, plus traditionnelles. Mais donc en l'occurrence, l'enseignement, largement bien entendu dans le secondaire, sauf peut-être en biologie, qui est la seule discipline où, les recherches récentes sont enseignées. Dans le supérieur, encore assez largement, sauf dans les dernières années en recherche, on enseigne, des savoirs qui sont généraux, relativement dépassés, mais dont on est assuré, etc. Voilà. Et donc, les savoirs de pointe, font l'objet des centres de recherche, etc. Et donc, évidemment, les jeunes, en arrivant dans l'entreprise, sont en partie déphasés parce que ils sont dotés de savoirs généraux, de savoirs périmés, et il leur faut s'adapter donc à une, à une vie particulière dans l'entreprise, à des habitudes particulières, à des compétences particulières qu'ils ne peuvent acquérir donc que là, en un certain sens. Et donc, ils se retrouvent en situation à nouveau d'apprenants, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Je rajouterai à cela le fait que le besoin aujourd'hui de se former pendant toute sa vie, qui est largement mis en avant à propos de la vie professionnelle, compte tenu des évolutions accélérées des techniques et des compétences, fait que l'entreprise est un lieu de formation, non seulement pour la jeunesse qui arriverait émoulue, mais au fond pour tout professionnel qui se trouve aujourd'hui devant la nécessité de changer plusieurs fois d'activité professionnelle dans sa vie. Voilà. Ce renversement de perspective, évidemment, a un côté positif que je signale au passage pour terminer, qui est celui de la formation par les choses, pour terminer ce renversement. La formation par les choses, la formation reçue par les jeunes, sauf ceux qui passent par l'apprentissage, est une formation essentiellement intellectuelle. Formation générale, voilà. Dans l'entreprise, les jeunes vont, j'évoquais la dimension de la réalité tout à l'heure, vont se trouver en situation de contact avec les choses, qui est le propre de la vie de l'entreprise, qui, comme on dit, ne mentent pas. et qui, si vous voulez, à qui on ne peut pas mentir, etc. Et je pense que ça, c'est un aspect effectivement très précieux de l'expérience qui est à ce moment-là acquise dans l'entreprise et je dirais qui va se développer au cours des années. Ensuite, on pourra parler d'un professionnel en termes d'homme d'expérience, etc. Parce que c'est quelqu'un qui effectivement s'est frotté aux choses, à la réalité et qui a reçu la sanction de la réalité. Voilà. Au-delà même, je dirais, de cette sanction des choses, ce qui me paraît précieux, je l'indique au passage, c'est que, à travers l'acquisition d'un métier, d'une vie professionnelle, eh bien, il y a davantage qui passe que simplement, par exemple, pour l'artisan, un tour de main, etc. Il y a aussi des valeurs qui passent, un certain nombre de valeurs, de références, etc. On a beaucoup perdu de ce point de vue-là depuis que les métiers ne se transmettent plus en famille, depuis que l'artisanat n'existe plus, depuis que les métiers, au fond, n'existent plus. On a beaucoup perdu. C'est-à-dire que la transmission morale, aujourd'hui, se fait essentiellement par le discours. Et elle est immédiatement contestable parce que, je dirais, à un discours s'oppose un autre discours. Ce qu'on voit ressortir par exemple dans un ouvrage, je pense à Giono, dans cette magnifique histoire de son enfance, Jean le Bleu, où il raconte ce qu'était son père, cordonnier, fabricant des chaussures de A à Z, etc. Eh bien, il évoque très très bien la façon dont au fond son père, à travers le métier, eh bien, qui n'a pas vraiment transmis à son fils, mais son fils le voyait travailler, etc., eh bien qu'il y avait à travers cela une transmission de valeurs, mais une transmission incarnée, donc non pas sous la forme d'un discours qui frise toujours l'idéologie, etc., et qui peut être assez rapidement taxé de bavardage, etc., mais au fond, à travers un tour de main, à travers un habitus, à travers une expérience, etc., eh bien justement, des valeurs incarnées qui, de ce point de vue-là, eh bien, sont incontestables parce qu'elles ont le poids justement de la réalité, le poids des choses, etc. Et donc je suis persuadé que dans l'entreprise, eh bien, dans ce contact justement avec la réalité, il doit pouvoir se passer quelque chose de cet ordre-là, en termes d'apprentissage. Je termine, et c'est une remarque finale, à propos de l'entreprise comme collectivité humaine. L'entreprise n'est pas uniquement le contact avec les choses, c'est aussi une organisation évidemment humaine, sociale, pas uniquement matérielle. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, l'entreprise, va représenter pour les jeunes un milieu ambivalent, comme toute organisation humaine. C'est un milieu qui, pour eux, eh bien, représente l'avenir, mais c'est en même temps, pour eux, un milieu qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, il y a ce que j'évoquais en introduction à travers cette image, cette dimension d'Eldorado va représenter une véritable complexité pour eux et qui implique certainement, de ce point de vue-là, dans l'entreprise, un effort d'accueil et d'intégration. Dans ce milieu humain, quelle entreprise ? Voilà. Je l'ai évoqué, la notion de transmission de ce point de vue-là dans l'entreprise, mais je l'évoquais, pour des jeunes qui ne sont plus, qui ne peuvent pas être considérés comme des mineurs, mais qui sont des alter-ego pour les professionnels, et en même temps, des gens arrivant de l'extérieur qu'il faut initier dans un milieu préexistant. Voilà, donc là, il y a un enjeu, en quelque sorte, d'intérieur et d'extérieur, qui n'est pas évident et qui est proprement justement celui de l'accueil donc des jeunes dans l'entreprise. Voilà. Alors je transmets la parole à Mathilde qui va poursuivre.
Bonsoir. Alors moi c'est surtout en tant que jeune que je vais intervenir ce soir plus qu'en tant qu'experte. J'ai pas encore l'âge de l'expertise. Ce qui m'a d'abord étonnée dans le sujet, c'est le choix du mot « accueillir ». C'est un terme que l'on emploie plus souvent dans la sphère privée que dans le monde du travail, dont l'humain ne paraît pas forcément avoir de place a priori. Et d'ailleurs, en entreprise, on parle plutôt d'intégrer un nouvel entrant plutôt que « accueillir ». Et justement, le terme d'intégration peut s'appliquer à des choses inanimées. Donc lorsqu'on parle de l'entreprise Lorsqu'on parle d'intégrer les jeunes dans l'entreprise, on parle de l'entreprise comme d'un dispositif organisé qui donne aux nouvelles entrants des objectifs précis, fixés, contextualisés. Et lorsqu'on parle d'accueillir, on parlerait de l'entreprise comme une structure capable de faire une place à l'humain. Donc se poser la question de l'accueil des jeunes dans l'entreprise, c'est d'abord questionner un fonctionnement et une identité de l'entreprise. Comment doit-elle se définir pour les accueillir? Et dans quelle mesure l'entreprise est-elle capable d'accueillir les jeunes? Alors, qu'est-ce qu'un jeune? Au sujet de l'intégration des jeunes, la littérature d'entreprise parle plutôt des jeunes diplômés. Alors, c'est vrai que pour les non-diplômés, comme par exemple les jeunes caissières en supermarché, les processus d'intégration sont souvent inexistants et donc on peut même pas tellement parler d'accueil. Et les jeunes, donc ça reprend un peu ce que vient de dire Monsieur Gaucheran, c'est tous ceux qui rejoignent l'entreprise pour la première fois, donc qui découvrent la réalité du travail en entreprise, c'est-à-dire tous ceux qui se trouvaient auparavant dans un autre modèle social, l'école, les structures d'études supérieures, etc. Et du fait qu'ils viennent d'un autre modèle de socialisation, justement, ces jeunes sont ceux qui sont portés à croire en des idées sur l'entreprise et en la possibilité de leur réalisation. Et l'écart qui peut exister lors de cette rencontre avec l'entreprise, face à la réalité qu'ils vont découvrir, cet écart entre réalité et leurs croyances est intéressant et nous montre souvent que l'entreprise qui prétend souvent pouvoir accueillir n'est parfois même pas en mesure juste de les intégrer convenablement. Alors je vous propose dans un premier temps de faire un constat rapide des rapports entre jeunes et entreprises et ensuite de se demander dans quelle mesure un accueil des jeunes est possible en entreprise. Alors, pour toutes les approches actuelles ou anciennes de la sociologie organisationnelle sont d'accord pour dire que l'intégration est une phase essentielle aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise. Et pour l'entreprise, les enjeux sont multiples, comme par exemple limiter le turnover pour optimiser le recrutement et ainsi réduire les coûts, coûts qui peuvent être de deux types, coûts directs, coûts liés au recrutement, et coûts indirects, les coûts d'adaptation. Enfin, augmenter la productivité, puisque la productivité collective repose tout de même en partie sur les productivités individuelles. Et enfin, maintenir le climat social. Et l'un des rôles des processus d'intégration doit être justement de faciliter l'insertion de l'individu pour optimiser la performance collective. Quels sont les outils et méthodes aujourd'hui utilisés par l'entreprise? Alors, on aura un exemple plus concret avec Isabelle Bourgade. Mais dans un ouvrage intitulé « Management des organisations RH, les apports de la psychologie », Brigitte Almudever et Alexis Leblanc retracent les pratiques d'accueil et d'intégration des plus fréquentes aux moins fréquentes. Je vous les liste rapidement parce que c'est intéressant de voir lesquelles sont plus utilisées et lesquelles sont finalement moins souvent employées. L'accueil formel par le responsable, les informations orales sur l'entreprise, la visite du site, la remise d'un livret d'accueil, l'information sur la sécurité, la présentation au cadre de l'entreprise, les informations d'ordre social, l'écho dans le journal d'entreprise, la rencontre avec la direction générale, la formation spécifique, l'entretien régulier et suivi, le séminaire d'accueil, les informations audiovisuelles, la désignation d'un responsable d'intégration et enfin seulement le parrainage par un ancien. Je vous propose dans un second temps de s'intéresser à une notion dont vous avez peut-être déjà entendu parler, sûrement, c'est celle de la génération Y, donc qui désigne les personnes qui sont nées entre 1980 et 1999, donc c'est ma génération. Alors, que dit-on de cette génération? On dit de cette génération qu'elle a un rapport étroit avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ça c'est vrai puisqu'on est, né avec, c'est quelque chose d'instinctif pour nous, leur utilisation. Ensuite on dit que c'est de cette génération qu'elle a une culture de l'instantanéité qui nous donnerait du mal à nous concentrer et une perte de patience, donc ce qui peut avoir des impacts pour l'entreprise. Une génération qui a l'habitude de l'apprentissage par l'action. Une génération qui demande toujours pourquoi avant d'agir et avant d'obéir. Une génération qui apporte une grande importance l'environnement de travail et à l'organisation des locaux, ainsi qu'à leur vie extra-professionnelle. Alors, pour ma part, je trouve qu'il faut prendre avec des pincettes les généralités comme ça à l'échelle d'une génération, parce que même si effectivement on est né avec les mêmes éléments culturels à disposition et dans le même contexte économique et historique, je pense que ne serait-ce que les différences culturelles, les différences sociales et d'éducation impliquent des rapports nettement plus différents par rapport à l'entreprise que le simple fait d'appartenir à une génération. Alors pour le nouvel entrant, les enjeux sont extrêmement importants, ils sont d'ordre social et professionnel. Donc je vous donne une citation rapidement de Dubard dans La socialisation, construction des identités sociales et professionnelles. Parmi les événements les plus importants pour l'identité sociale, la sortie du système scolaire et la confrontation au marché du travail constituent désormais un moment essentiel de la constitution d'une identité autonome. Alors ça rejoint ce que disait M. Gaucheran. Et du côté des jeunes d'aujourd'hui, il y a à la fois beaucoup d'attentes de leur premier travail en entreprise et en même temps une conscience déjà présente de l'adaptation nécessaire à la flexibilité du marché, parce qu'ils seront les premiers à quitter leur structure pour aller se vendre ailleurs si besoin. La sécurité de l'emploi n'est plus un facteur déterminant pour eux. Ils ne l'ont jamais entrevu comme une possibilité, en tout cas dans le monde marchand, dans le secteur marchand. En revanche, ils attendent de trouver un intérêt dans leur mission, d'apprendre, de développer leur réseau. Et pour eux, l'âge et le statut ne sont plus synonymes de compétences. Enfin, donc, on se dit que cette génération est toujours en train de demander pourquoi, ça peut agacer. Mais à mon avis, cette recherche de sens de la génération Y est avant tout du bon sens. Une personne qui connaît les tenants et les aboutissants des tâches qu'elle a effectuées le fera avec beaucoup plus d'implication et d'intérêt que si elle ne sait pas à quelle hauteur elle contribue à la marche de l'entreprise. Alors, il y a un livre qui est paru il y a quelques années qui s'appelle « L'Open Space m'a tué ». D'Alexandre Desinard et Thomas Hubert, vous en avez peut-être aussi entendu parler, qui est un exemple, à mon avis, significatif d'un certain rapport, justement, générationnel au travail. Je vous donne un extrait du quatrième de couverture, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, ils ont fait de bonnes études, occupent des postes à responsabilité dans des entreprises prestigieuses. Auront demain les clés de l'économie française, et pourtant, les jeunes cadres sont au bord de l'explosion. Dans les années 80, ils étaient prêts à tout pour réussir. Aujourd'hui, ils prennent leur RTT, refusent des promotions et pensent que la vraie vie est ailleurs. Passé l'enthousiasme des premières semaines, les jeunes recrues se heurtent aux dures réalités des nouvelles méthodes de management. Alors, ce livre est intéressant, non pas parce qu'il nous révèle une vérité sur les rapports entre jeunes et entreprises, mais parce qu'il peut mettre en lumière une certaine ambiguïté de l'entreprise, d'une certaine sorte d'entreprise aussi, qui présente une volonté d'un certain type d'accueil sans être en mesure de le fournir. Ambiguïté qui est de deux sortes pour moi. D'une part, les stéréotypes générationnels, donc notamment sur la génération Y, peuvent pousser cette entreprise à se donner une fausse image auprès des jeunes et à leur tenir des discours faussés. D'autre part, il est quand même intéressant de noter que le jeune est celui qui se caractérise par son inexpérience, par son regard neuf. Et si ce regard neuf est un tant soit peu valorisé par l'entreprise, il peut être source d'une grande richesse pour l'entreprise. Mais souvent, l'entreprise a un souci d'intégration extrêmement rapide, notamment de la culture d'entreprise, et on peut se demander si c'est pas au risque de gâcher cette ressource, justement, cette inexpérience. Donc deux sortes d'ambiguïté de l'entreprise qui me poussent à me poser la question: quel accueil des jeunes est possible finalement en entreprise? Est-ce qu'accueillir les jeunes, c'est les intégrer? Alors, il y a dans l'accueil une dimension gratuite, hors le monde de l'entreprise et le monde de la non-gratuité, de la rentabilité, donc de la non-gratuité par excellence. Il y a ensuite dans l'accueil, l'accueil suppose une stabilité de celui qui accueille. D'autant lorsqu'il s'agit d'un jeune qui découvre un monde totalement nouveau. Lorsqu'on accueille quelqu'un chez soi, on ne lui dit pas « installe-toi, je dois partir ». Alors les entreprises d'aujourd'hui sont toujours en mouvement. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté d'accueillir ou d'intégrer les jeunes arrivants, mais souvent les managers qui accueillent ne sont pas en mesure de dire s'ils seront là encore le mois d'après. Et c'est pareil pour leur N+1 et leur N+1, et sans parler des comités de direction qui changent extrêmement souvent. Et ce fonctionnement de l'entreprise fluctuant est le seul connu des jeunes d'aujourd'hui. Enfin, l'intégration des jeunes, y compris des jeunes diplômés, passe quasi systématiquement par des périodes initiales de stage ou de CDD, comme s'ils devaient acquérir le droit, finalement, d'être embauchés en travaillant pendant X mois à bas coût. Alors, quel accueil est possible dans ces conditions ? Deuxième question que je me pose au sujet de l'accueil des jeunes, c'est est-ce qu'accueillir les jeunes, c'est les séduire ? Parce que finalement, l'enjeu majeur dans l'intégration, c'est de créer et de construire un lien de confiance entre le jeune et l'entreprise. Et comment construire ce lien ? L'entreprise, enfin beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, essayent d'attirer les jeunes par des moyens ludiques, originaux, avec un fun de façade. On parle de week-end, de team building, d'intégration dans des ambiances de vacances. Et si tout ça cherche à donner une image de l'entreprise, à mon avis, l'entreprise se trompe sur ce qui attire véritablement les jeunes. Parce que finalement, en entreprise, on n'est pas là du tout pour rigoler. Comme M. Cocheron l'a dit, c'est extrêmement sérieux. Et il s'agit avant tout de s'investir dans un projet collectif orienté vers la rentabilité. Et cette rentabilité n'est pas forcément mauvaise, puisqu'elle va permettre à la structure de vivre et à tous les salariés de vivre. Donc c'est quelque chose que l'entreprise peut mettre en avant. Alors s'il y a convivialité entre les collègues de travail, tant mieux, mais ce n'est pas l'objet premier de l'entreprise et cette convivialité ne doit surtout pas être institutionnalisée par l'entreprise, parce que s'il y a des illusions, le jour où la convivialité est moins présente, le lien sera rompu. Et justement, on constate parfois un écart entre les discours d'entreprise, notamment sur les valeurs d'entreprise, et ce qui est vécu au quotidien. Alors les valeurs d'entreprise, souvent des termes comme convivialité, esprit d'équipe, confiance sont repris. Et le jeune, on a vu, est celui qui est porté à croire en ces discours, même si le jeune d'aujourd'hui est déjà un peu plus méfiant. Et s'ils constatent que ces valeurs ne sont pas visibles au quotidien dans leur relation de travail, si le jour où il y a un coup de stress, leur manager leur parle de manière extrêmement mal, cela provoquera inévitablement chez eux un désengagement. Et quand on interroge les jeunes d'aujourd'hui sur leurs aspirations par rapport au travail, ce qu'ils évoquent en premier lieu, c'est l'intérêt des tâches qui leur sera confiées, la confiance accordée, la responsabilisation, la reconnaissance, l'encadrement. En fait, ils ont véritablement envie de sérieux et de faire des choses sérieuses. Et quand on interroge des managers sur ce qui est susceptible d'attirer les jeunes d'aujourd'hui, on a des adjectifs étonnants qui peuvent surgir, comme par exemple ludique, imagé, divertissant, amusant. Bon, cet écart peut poser question. Et si l'entreprise veut accueillir les jeunes pour les fidéliser, elle ne doit pas chercher à les séduire. La séduction est quelque chose d'éphémère qui ne crée pas un lien véritable avec le jeune arrivant. Ce qui provoque, à mon avis, du coup, l'engagement réel, c'est tout ce qui peut faire écho à l'intelligence de ce jeune qui est plein d'espoir et qui a envie de faire quelque chose de bien. Et donc, ça peut être l'apprentissage, ça peut passer par l'apprentissage complet de ses tâches, l'accompagnement lors de la formation, par le compagnonnage, notamment le tutorat, l'information et la présentation de l'environnement de travail, la responsabilisation et la confiance accordée aux jeunes, surtout des tâches en adéquation avec les compétences actuelles et potentielles du jeune. Alors, pour favoriser cela, il y a un des moyens qui paraît assez efficace aujourd'hui est l'alternance. L'alternance qui permet aux jeunes, pendant sa période de formation, de découvrir en même temps, en parallèle, le monde de l'entreprise. Je dirais pour conclure que l'entreprise telle qu'elle se présente aujourd'hui ne semble pas être en mesure d'accueillir, puisqu'elle change sans cesse. Par ailleurs, en tant qu'institution, elle a à se présenter auprès des jeunes, telle qu'elle est, et ceci dès le recrutement, voire dès la communication corporate, c'est-à-dire un monde sérieux et souvent difficile, où la nécessité de la rentabilité est première. et elle doit se montrer à ce moment-là comme un lieu d'adhésion à un projet de travail collectif orienté vers cette rentabilité qui permet son existence. Et donc l'intégration des jeunes, c'est cette phase qui annonce les conditions réelles du projet d'entreprise. Alors, ce projet de travail commun que propose l'entreprise, peut-être par les relations interpersonnelles, peut-être par la satisfaction de la tâche bien faite, peut devenir générateur d'un épanouissement personnel, mais ce n'est absolument pas l'objet premier de l'entreprise. Enfin, on pourrait imaginer une distinction entre une entreprise qui demanderait aux jeunes de s'intégrer, au sens premier et restrictif du terme, peut-être trop vite dans un mode de fonctionnement et une culture, au nom peut-être de l'efficacité, et une autre qui accueillerait véritablement, à l'écoute et ouverte aux qualités propres de celui qu'elle accueille, c'est-à-dire pour les jeunes, son inexpérience, sa fraîcheur, son regard neuf, qui sont source d'une très grande richesse potentielle pour l'entreprise.
J'avais appuyé sur le... Bien, pour ma part, je vais d'abord vous dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux jeunes dans l'entreprise. Tout d'abord dire que je représente une grande entreprise quand même. Je pense que ça, c'est un point important parce que les entreprises ne sont pas toutes les mêmes. Elles n'ont pas les mêmes problématiques déjà au plan économique, au plan de leur fonctionnement, au plan de leur environnement, etc. Donc, ne sont pas soumises aux mêmes contraintes. Et évidemment, de cela, en découle des politiques qui peuvent être assez différentes. Deuxièmement, une entreprise qui s'appelle une banque, qui a deux caractéristiques. Avoir connu, de par la fidélité des collaborateurs à l'entreprise, des départs en retraite importants, et donc du renouvellement de ces équipes importants en nombre aussi, et particulièrement donc des jeunes en nombre important. Elle a cette caractéristique-là d'une part, et elle a d'autre part comme caractéristique d'avoir des politiques de formation permanente tout au long de la vie professionnelle, puisque les budgets de formation dans le monde bancaire, enfin en tous les cas chez nous, sont de l'ordre de 7 à 8% de la masse salariale en moyenne. Voilà, juste pour poser un peu le décor, parce que le témoignage d'entreprise, c'est forcément celui d'une entreprise. Alors pourquoi s'intéresser aux jeunes ? D'abord, dans les fonctions ressources humaines dans les entreprises, et dans les entreprises en général, pour les dirigeants, l'idée c'est quand même que quand on a des collaborateurs qu'on recrute, ça a des coûts bien sûr de recrutement, on a des coûts d'intégration, on a des coûts de formation, et puis on a envie que ça fonctionne. Donc on a envie que les gens restent. Donc on travaille dans la compréhension des attentes des diverses populations que nous avons dans les entreprises, dont les jeunes font partie. Et on essaye un petit peu de décrypter ce qu'on nous en dit, ce qu'on en entend, ce qu'on en lit pour le traduire dans un certain nombre de politiques. Alors moi, sans être, parce que je suis ni philosophe ni jeune, mais de façon pragmatique, ce qu'on entend aujourd'hui sur les jeunes, d'abord on entend un discours général et global sur les jeunes. Et je pense qu'effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure dans votre propos, je crois, les jeunes non qualifiés, ben, ils n'ont rien à voir avec les jeunes qui sortent de master ou d'école de commerce, etc., et leurs problèmes par rapport à l'emploi, même si parfois il y a des choses similaires, c'est pas tout à fait la même chose, et leur avenir dans les entreprises n'est pas le même non plus. Donc ce qu'on entend dans les jeunes, et ce qui m'a frappé en préparant cette intervention, c'est qu'on entend surtout des choses négatives. On caractérise les jeunes par « ils ne sont pas » ou bien ils sont trop quelque chose. Et parfois, on les considère comme une menace. Ils arrivent dans une entreprise, ils ont un esprit contestataire, ils ont un esprit, etc. Donc, c'est une menace un petit peu pour l'ordre établi, l'ordre social. Parfois, ils sont un peu victimes aussi, parce qu'ils sont la génération Y, issue du monde de leur... Enfin, des générations qui ont connu la précarité, la difficulté dans le monde du travail. Mais parfois aussi, et heureusement souvent, on les considère comme des ressources. On les considère comme des ressources, mais à un point où il ne faut pas non plus, vous l'avez souligné tout à l'heure, pas les instrumentaliser en les valorisant ou en donnant des images à la fois des jeunes et des entreprises qui peuvent être fausses. Bref, en général, c'est un problème, quoi. Et j'ai repris quelques affirmations où on dit les jeunes sont plus fragiles, moins solides, ils ont perdu le goût de l'effort et de la discipline. Leur méfiance et leur inquiétude s'expriment dans des exigences contradictoires, d'aventure, en même temps sécurité de l'emploi, leur refus du commandement, leur désir de responsabilité élevé, des intérêts individualistes, ils voudraient tout de suite, arriver à des niveaux de carrière, etc., etc. Et quand je cite ça, il y a au moins une personne dans cette salle qui peut-être se rappelle d'une étude qui a été faite par des gens qu'ils connaissent bien, qui s'appelle Entreprise et Personnel, qui est une entreprise qui réfléchit aux questions de ressources humaines. Ben, c'est pas du tout quelque chose d'actuel, en fait. Ça date de 1970. Donc tout ça pour dire que finalement, la problématique, la vision qu'ont les entreprises, les managers, des jeunes, elle n'est pas nouvelle quand on les caractérise comme ça. Et ils ont toujours représenté un petit peu ça, de par le simple fait, je pense, qu'ils sont jeunes. Donc il y a beaucoup de préjugés. Et donc on dit aussi des jeunes qui sont plus diplômés, plus motivés, adaptables, mais plus exigeants. A contrario, on dit des seniors qui sont moins diplômés, qui sont moins motivés. Par contre, ils ont plus d'expérience, on peut plus s'appuyer sur eux, ils sont moins volatiles. Par contre, ils ont des capacités d'apprentissage réduites. A contrario, les jeunes peuvent, etc. Et tout ça, finalement, l'abondance des préjugés, ça a toujours été une caractéristique des jeunes en général, mais des populations qu'on a dans les entreprises en particulier aussi. Donc on occulte souvent, quand on présente les jeunes, comme d'autres catégories de personnes dans les entreprises, on occulte souvent les complémentarités et on cible vraiment sur ce qui est a priori de la différence. Donc les préjugés autour des salariés, en fait, hein, dans les entreprises, servent à distinguer, à les catégorier et non pas finalement à valoriser le fait qu'ils peuvent avoir des capacités, des qualités qui sont complémentaires dans les entreprises. Ça, c'est sur les jeunes, en général, ce qu'on entend. Et puis, nous, dans les entreprises, on s'interroge beaucoup, effectivement. Enfin, s'interroge beaucoup, non, mais on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup écouté ce qu'on nous dit sur la génération Y. Parce que c'est quand même les jeunes qu'on embauche aujourd'hui et depuis quelques années déjà. Alors, vous l'avez très justement souligné, donc la génération Y, déjà. On dit aussi que c'est la génération Y, le Y en anglais. C'est une génération qui a besoin de comprendre, de donner du sens, etc. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on sait très bien que pour intégrer un jeune, pour l'intéresser, on ne va pas lui dire « tu ne te poses pas de questions, c'est comme ça que ça se fait, on a toujours fait ça comme ça, et on va continuer à le faire comme ça ». C'est des choses qui marchent beaucoup moins aujourd'hui. Ce qu'on voit aussi dans les entreprises, c'est que cette génération Y, dans ses caractéristiques particulières, parce qu'après, ce sont des jeunes, si je puis dire, comme les autres, des autres générations, on a vu aussi que c'est une génération qui est très sensible à l'équité dans l'entreprise, à la justice et au respect. Donc c'est des valeurs qu'on véhicule parfois, souvent même dans les entreprises. Mais il y a une acuité particulière, je trouve, dans la réactivité des jeunes au sujet de l'équité, de la justice et du respect, et un souhait de valoriser justement le travail en commun. Par exemple, il y a des choses qu'il faut expliquer aux jeunes qui arrivent dans les entreprises, parce que a priori, c'est parfois des choses sur lesquelles ils réagissent. Je prends des exemples concrets puisque je témoigne au titre d'une entreprise. Mais on a un certain nombre de jeunes qui ont beaucoup de mal à comprendre que dans les mêmes métiers, finalement, ils ont à côté d'eux quelqu'un qui est payé une fois et demie ou deux fois plus cher. Ça, c'est un truc, parfois, c'est compliqué. Donc nous, nos rôles de manager, etc., c'est aussi d'expliquer finalement ce que c'est qu'une entreprise, l'histoire des entreprises, l'histoire des personnes qui travaillent dedans. Pourquoi est-ce que, justement, on a intégré des gens et qu'on a toujours, et que ça a de la valeur aussi d'avoir conservé des personnes, mais que de par eh bien, l'histoire, les années, eh bien, les gens ont progressé. Ce qu'on a constaté aussi en pratique, dans cette fameuse génération de jeunes, cette génération Y et ses particularités, c'est que ce sont des jeunes qui ont des grosses capacités pour aller chercher de l'information dans des structures, des réseaux improbables parfois, mais en tous les cas qui savent très bien le faire, beaucoup plus que les autres générations. Donc ils peuvent avoir beaucoup d'apports dans les équipes quand on ne trouve pas quelque chose dont on a besoin pour son travail, une information, etc. Là, eux, ils ont la capacité à aller la chercher là où parfois on ne pense pas forcément à y aller. Et donc moi je trouve qu'ils ont en plus une grande qualité qu'on constate pas seulement dans le travail, mais c'est le partage de l'information. À une époque dans les entreprises, on disait des managers que celui qui détenait l'information finalement avait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est totalement faux. C'est-à-dire que d'abord, le pouvoir ne s'exerce pas par l'information. On le verra tout à l'heure, justement, sur le regard, sur le management que peuvent avoir les jeunes, et réciproquement. Mais en tous les cas, aujourd'hui, quand on intègre des jeunes dans l'entreprise, eh bien, on sait qu'il y a une diffusion de l'information qui se fait. Ça, c'est un vrai plus, parce que c'est cette culture du partage, finalement, qui est un peu caractéristique de cette génération-là. Alors, les nouvelles technologies, ça c'est certain, on les voit évidemment à l'œuvre. Et finalement, si on y réfléchit un peu, en quoi est-ce que ça nous apporte, nous aussi, dans les entreprises, les nouvelles technologies? Parce que on intègre des gens qui sont bien meilleurs que la majorité de nos collaborateurs sur ces registres-là. Ils savent faire tout en même temps, c'est-à-dire que comme nos jeunes adolescents dans nos familles, on s'étonne, je le citais tout à l'heure, on s'étonne qu'ils puissent à la fois travailler leurs devoirs de philo, tout en écoutant de la musique, tout en ayant un œil sur l'émission de télé, tout en ayant Facebook à proximité pour le cas où, qui se réalise souvent, ils reçoivent des messages, etc. etc. Et... Moi non plus. Mais c'est vrai pour les maths aussi. Mais bon, voilà. Et nous, on s'étonne de dire, mais enfin, comment est-ce que tu peux travailler comme ça? C'est impossible, etc. etc. Bon, ben, ils sont comme ça, ils ont vécu comme ça, et quelque part, il faut les accepter comme ils sont, et au contraire, essayer de se dire, ben voilà, j'ai en face de moi des gens qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Alors, il y a sûrement d'autres inconvénients sur le plan éducatif, je ne me prononcerai pas, mais voilà. De la même façon, ils sont très ouverts à tout ce qui se passe pour une entreprise dans tout le monde extérieur. C'est-à-dire que pour eux, la mondialisation a toujours existé. C'est pas nouveau. Une société non mondialisée, c'est le Moyen-Âge, quoi. C'est pas... Voilà. Et, bon, par contre, ils sont très mondialisés, mais ils sont pas mobiles. Sauf pour aller à New York, mais pas pour aller à Guéret, quoi. Ce que je dirais aussi de cette génération de jeunes telle qu'on la voit, nous, avec nos yeux dans les entreprises et avec les éclairages qu'ont les spécialistes là-dessus, c'est qu'on se rend compte, et là aussi vous l'avez souligné, c'est que le management n'est plus reconnu par les jeunes parce qu'il est en position de management. Voilà. On a eu des générations de gens qui disaient, bon ben voilà, lui c'est mon responsable, comme il est mon responsable, je le respecte parce qu'il est responsable. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour pas mal de gens aussi, mais voilà, il faut que les managers puissent apporter quelque chose, que ce soit en termes d'intégration, que ce soit en termes de métier, ils doivent savoir éclairer. Cette génération a besoin de comprendre, effectivement, parce qu'on les surestime aussi parfois à l'entrée, c'est-à-dire qu'ils ont un discours très positif, très assuré, très etc. Malgré tout, c'est des jeunes qui ne sont pas encore confrontés au monde du travail, donc... Ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les clés de l'entreprise, ils n'ont pas la culture de l'entreprise, ils n'ont pas les mots de l'entreprise, ils n'ont pas le métier de l'entreprise. Donc tout ça, ça s'apprend et donc le manager, il est aussi reconnu pour ça et l'entreprise également. Ce qu'on voit aussi, et moi personnellement, je m'inscris assez en faux sur ce qu'on entend des jeunes, et mon propos n'est pas du tout démagogique, mais je trouve globalement que le travail est une vraie valeur pour les jeunes qui rentrent dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en règle générale, bien sûr, il y a des exceptions comme partout, c'est vrai dans toutes les générations, mais les jeunes qui arrivent dans l'entreprise ont envie de réussir, ont envie de bien faire, et ont envie quand même de s'intégrer dans les entreprises. Et je trouve que finalement, d'études que j'ai regardées, 95% des jeunes disent accorder une importance majeure au travail, à peu près égale à celle qu'ils accordent à la famille. Par contre, c'est pas l'une au détriment de l'autre. Voilà, tout est important, à un niveau d'importance, et ils ont aussi des exigences croissantes par rapport à tout ça. Alors, comment on les intègre, tous ces jeunes, dans l'entreprise? Je dirais que dans les techniques d'intégration, vous avez cité des méthodes d'intégration aussi, mais dans les méthodes d'intégration, il y en a plusieurs. Il y a vraiment ce qui est l'assimilation. Donc on demande à quelqu'un de se fondre dans la culture d'entreprise et d'être accepté comme membre de cette communauté d'entreprise quelque part. Il y a des méthodes de séparation. On fait coexister des populations et puis on ne fait rien pour que finalement elles se mélangent entre guillemets et qu'elles s'enrichissent l'une ou l'autre. Il y a aussi, selon qu'on accompagne bien ou pas toutes les intégrations, la possibilité d'avoir des espèces de phénomènes ségrégationnistes en entreprise, où le groupe un peu majeur, un peu dominant, peut un peu exclure ou le laisser en marge, ne pas l'aider à s'intégrer, ne pas le faire progresser, ne pas lui apporter ce dont il a besoin. Puis il y a l'intégration. Alors moi, je n'ai pas parlé de l'accueil, vous voyez, mais de l'intégration, où là, finalement, on s'intègre et chacun apporte à l'autre. C'est bien évidemment sur le mode de l'intégration que des entreprises comme les nôtres travaillent. Alors au plan pratique, quelles sont nous les méthodes d'intégration qu'on utilise? Alors je voudrais juste dire qu'on va dire qu'en général, nous, les personnes qu'on embauche, les jeunes qu'on embauche, sont au minimum diplômés Bac plus 2. Donc c'est déjà des gens qualifiés qui arrivent dans la banque. Et en fait, on essaye de les intégrer vraiment dans la durée et de façon progressive. Donc on est très organisé pour ça. Déjà, on leur donne les repères de l'entreprise elle-même. Quand je suis dans cette entreprise, j'ai affaire à qui? C'est qui mon futur manager? C'est qui la personne qui va m'apprécier? C'est qui la personne qui s'occupe des ressources humaines? C'est qui le président? C'est qui le directeur général? Voilà, c'est qui mon entreprise? Je dois la comprendre parce que je vais être intégré. Nous, on est 4400 sites différents. Bah, quand je suis à Guéret, pour reprendre cet exemple tout à l'heure, je suis quand même loin du siège social à Lyon. Malgré tout, je suis dans une entreprise. Donc, il faut quand même que je sache comment elle est faite. Donc, l'histoire, l'organisation, la culture, les dirigeants, tout ça, c'est une base pour nous incontournable. Et puis, on dit aussi, ben voilà, vous arrivez dans une entreprise, vous êtes jeune, vous avez des exigences. On ne peut pas satisfaire toutes les exigences. Et donc, on doit trouver un équilibre et on doit un peu contractualiser nos relations. On les a contractualisées en signant le contrat de travail. Ben, ce n'est pas ça le problème. Le contrat de travail, tout le monde en a un, c'est le même, c'est juridique, c'est pas ça. C'est de dire, finalement, et c'est vrai à l'embauche aussi, on dit, voilà, dans notre entreprise, si vous voulez devenir directeur d'agence en 2 ans, c'est juste pas possible, quoi. Donc il va falloir que vous passiez par telles et telles étapes. Et il faut que vous les acceptiez. Sinon, nous, c'est des étapes pour nous incontournables. Donc si vous êtes d'accord là-dessus, ok, on travaillera ensemble. Donc c'est cette espèce aussi de nouvelle façon. Et moi, je trouve que, pour le coup, c'est beaucoup plus important pour les jeunes d'aujourd'hui. Le contrat de travail, c'est toujours important. Ça le devient de plus en plus, pour d'autres raisons. Mais le contrat, entre guillemets, le deal qu'on passe avec les gens à l'entrée, quelque part, c'est tout aussi important. Parce que finalement, on donne une visibilité, on dit voilà, vous allez travailler chez nous, voilà comment, voilà ce qu'on peut vous offrir, voilà l'intérêt du boulot, voilà ce qu'on ne pourra pas faire, voilà un certain nombre de choses, et on s'inscrit dans ce cadre-là. Et les jeunes, j'allais dire, si au bout de 3 ans, vous avez dit à quelqu'un, dans 3 ans, on fait le point, et dans 3 ans, si ça a bien marché, eh bien vous progressez vers tel ou tel type d'emploi. Bon, je mets entre parenthèses des périodes de crise où finalement les choses ne se passent pas tout à fait avec autant de liberté ni pour les uns ni pour les autres. Mais si on ne respecte pas nos engagements, j'allais dire, on est sûr d'être perdant. Voilà. Donc il faut quand même être conscient de ça parce qu'on ne peut pas faire du marketing à l'entrée. On retrouve très vite la sanction de ça. Ce que l'on a constaté comme étant important aussi pour l'intégration des jeunes, c'est qu'ils sont issus des nouvelles technologies et c'est important pour eux aussi de rentrer dans une entreprise dont ils mesurent la modernité éventuellement. Et donc nous, on fait beaucoup sur la découverte et la maîtrise de l'outil informatique avec lequel on travaille, parce que c'est le quotidien d'une part, et d'autre part parce qu'il est très technologique, qu'on en est assez fiers, et que donc on trouve que ça c'est très important, et puis c'est l'outil de travail d'aujourd'hui. Après, bien sûr, on considère que le jeune qui arrive dans l'entreprise, il a appris beaucoup de choses, mais il n'a pas appris notre entreprise, il ne la connaît pas. Il sait à peu près ce que c'est qu'une banque, mais il ne sait pas dans le quotidien ce que c'est exactement, donc on le forme quand même à la banque et au métier, en plus de sa formation de base. Voilà, quand j'ai dit ça, on va dire grosso modo, ces parcours d'intégration pour nous se déroulent pour des gens qui sont à Bac plus 5 sur des périodes de 6 mois environ, rythmées par des formations, rythmées par un peu d'immersion, et aussi en faisant beaucoup appel au tutorat. On fait beaucoup appel au tutorat. Pourquoi ? D'abord parce que les tuteurs d'entreprise sont très importants pour les jeunes. C'est des gens qui ne sont pas dans leur ligne managériale. C'est des gens qui les ont formés, qui les ont accueillis. C'est-à-dire qu'en cas de difficulté, ils savent se tourner vers eux et non pas vers leurs interlocuteurs. Le management, c'est toujours plus compliqué de temps en temps de dire « il y a un truc, je n'ai pas compris ». Donc ça, c'est assez important. Donc on fait beaucoup de tutorat. Par exemple, dans une entreprise comme la nôtre, il y a 200 tuteurs pour intégrer les gens à l'entrée. Je précise bien sûr que le tutorat, ça ne marche que si les gens sont volontaires. Hein. C'est quand même une mission qu'on a à l'intérieur de son job. On n'est pas tuteur à temps plein, donc c'est un investissement qu'on fait en vue de l'intégration. Donc voilà un petit peu les processus d'intégration tels qu'on les a. Mais je dirais aussi qu'on a aussi globalement le même niveau d'exigence à l'égard du travail, envers les jeunes, envers les moins jeunes et envers toutes les catégories des gens qui travaillent dans l'entreprise. Par contre, évidemment, patiner des particularités de chacun. Pour nous, on a un enjeu en termes d'intégration qui est la formation de nos managers. On l'a vu tout à l'heure, l'autorité du manager n'est légitime aujourd'hui que parce qu'il est bon intégrateur, compétent, il sait expliquer, il sait aider et il sait fédérer les équipes. Et il doit être exemplaire. Donc ça, après, c'est un autre sujet pour tous ces managers en première ligne, mais voilà. Et donc, on a depuis maintenant plusieurs années pris le parti aussi de former de façon importante nos managers, notre management, pas uniquement en vue de l'accueil des jeunes, mais aussi en vue de l'accueil des jeunes, parce que on travaille dans de petites équipes qui doivent être complémentaires et desquelles on attend beaucoup. Donc, on les forme bien sûr au management tel que toutes les entreprises le font, le management comportemental, la gestion des entretiens, etc., etc. Mais depuis 2 ans maintenant, on s'intéresse aussi à tout ce qui, pour les managers, est outils de compréhension des personnes que j'ai en face de moi. C'est-à-dire, voilà, moi je réagis comme ça face à une situation, il faut que je comprenne que la personne que j'ai en face de moi réagit pas de la même façon. Donc on est en train de faire pas mal de choses autour de, ben, pour nos managers, de les dire, voilà, la façon dont quelqu'un apprend quand il arrive dans l'entreprise, c'est pas la même chose. Les sciences cognitives, la façon d'apprendre, c'est pas la même chose. La façon de comprendre, c'est pas la même chose. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est un petit peu l'analyse, non pas de la personnalité, mais l'analyse vraiment plus des, ce qu'on appelle les préférences cérébrales, les choses comme ça que vous connaissez forcément. Sûrement pour un nombre d'entre vous, justement pour sortir un petit peu du rôle du manager traditionnel et être attentif à ça. Parce qu'aujourd'hui, on considère que nos managers doivent plus être des guides par rapport à des jeunes qui rentrent et donc bien comprendre tout ça. Alors on communique sur des valeurs. On communique sur des valeurs, on communique sur l'intégrité, on communique sur la considération. C'est très important et finalement, c'est très écouté. C'est-à-dire la considération, bien sûr, envers soi-même, envers les gens avec qui je travaille, envers mes clients, ça va sans dire, puisqu'on a fort heureusement des clients pour nous faire vivre, et envers mes collègues et l'entreprise. Et bien sûr, le travail en équipe, parce que nous, on n'a pas le choix non plus, c'est les petites équipes qui travaillent. Bon, alors ça, c'est important, mais les valeurs, comme vous le disiez justement, de temps en temps, on communique beaucoup sur les valeurs, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas, quoi. Et donc, on valorise tous les comportements qui sont au plan managérial, au plan du travail, de cette nature. Je vais vous citer un exemple. On a, par exemple, je dirais d'un manager qui ne respecte pas ça envers ses équipes. Pour nous, on n'en fait pas un manager où on le sort d'une responsabilité de management. C'est très important pour nous. Par exemple, pour développer aussi le travail en équipe, on a supprimé les rémunérations variables. Voilà, donc il n'y a plus de sujet de rémunération variable. Les gens, ils travaillent avec leur rémunération en équipe et on a supprimé ce qui, de temps en temps, pouvait être trop individualiste dans cette typologie de rémunération. Voilà, vis-à-vis des jeunes, finalement aussi, de quoi on s'est rendu compte ? On s'est rendu compte qu'ils avaient plus que d'autres besoin, au moment de leurs premières années de carrière, de plus de communication sur est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien ? Et surtout pas toujours et surtout dire oui là t'as bien fait, voilà. Donc on ressent un fort besoin dans les jeunes collaborateurs d'être confronté à j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, j'ai besoin de ce retour là pour savoir si je suis sur la bonne voie. Donc nous du coup côté cette fois-ci ressources humaines, on a aussi des points de rencontre beaucoup plus fréquents avec les jeunes sur les 2 ou 3 premières années d'intégration. Voilà, bon, je pense que j'ai parlé suffisamment longtemps. Je dirais simplement que dans nos pratiques malgré tout de responsables d'entreprise, on ne doit pas non plus trop segmenter notre gestion des ressources humaines. Le droit, la réglementation nous amène à le faire en négociation, en gestion, puisqu'il faut intégrer les jeunes, il faut respecter la diversité dans l'entreprise, la diversité de la société, il faut promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il faut intégrer des personnes handicapées, il faut maintenir des seniors au travail, il faut etc. Et tout ça, ça contribue à catégorier toutes les catégories, tous les gens qui travaillent dans l'entreprise. On est forcément dans une catégorie, voire dans plusieurs, etc. Ça, c'est la réglementation qui nous pousse à ça. Mais en matière de gestion des ressources humaines, ça relève de la... Bien sûr qu'on décline ensuite des politiques autour de ça, mais dans la gestion des ressources humaines, je crois qu'il n'y a rien de pire que de dire à des personnes avec lesquelles on travaille, ben vous, on vous promeut parce que vous êtes une femme, on vous garde parce que vous êtes un senior, on vous intègre parce que vous êtes un jeune, etc. etc. Donc ça, je pense que autant c'est des sujets, autant dans notre politique de ressources humaines, il ne faut pas segmenter parce que finalement, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, handicapés ou pas, les personnes dans l'entreprise, ils aspirent à une chose, c'est faire leur travail avec une forme de sécurité et ils ont les mêmes aspirations plus ou moins rapides. Les jeunes sont peut-être un peu plus impatients, mais c'est normal et on gère des choses un peu différemment. Mais pas trop de différence parce qu'en plus, on oppose les catégories de population et pourquoi on a fait ça pour telle catégorie et pas pour telle autre. Voilà. Donc de tout ça et de l'intégration des jeunes, moi je dirais que c'est un travail important. Alors je ne suis pas du tout philosophe, mais j'avais quand même repris une citation que j'ai retrouvée, parce que j'ai un peu lu, et on dit que les nouvelles générations sont difficiles à gouverner, je l'espère bien, et c'est à propos d'Alain dans ses propos sur l'éducation. Donc je dirais que le sujet des jeunes c'est très important, c'est dans les entreprises, mais finalement au bout du bout, même si on décline tout ça nous, dans nos gestions, de façon différenciée, il faut aussi qu'il y ait un corps social et qu'il y ait un sens dans les entreprises à travers la diversité de sa représentation. Voilà.
Bon, évidemment, vous nous faites grand plaisir en terminant sur Alain. Pour reprendre toute cette question de loin, et certainement avant de revenir à tel ou tel point, parce qu'il y a eu énormément d'éléments intéressants, d'apports intéressants, en particulier de l'expérience d'entreprise et de ce que vous vivez dans le cadre de la CIC. Et puis, je crois que ce sera intéressant de revenir aussi sur les apports de Mathilde Nelgelen, qui relevait un peu d'un réquisitoire. Là, il y a des aspects intéressants qu'il faudrait reprendre. J'aurais posé une question, vous posez une question incongrue peut-être un peu à toutes les deux. Je me disais en vous écoutant, est-ce que finalement l'intégration dans l'entreprise ne relève pas au-delà de la dimension strictement économique, de l'utilité économique et professionnelle, est-ce qu'elle ne relève pas pour la jeunesse aujourd'hui du rituel initiatique? Parce que ce rituel n'existe plus dans nos sociétés. L'adolescence est un long fleuve tranquille pour la majorité des jeunes qui parfois s'étend jusqu'aux portes de la retraite. En tous les cas, s'installent confortablement dans les familles sans fin. La conjugalité, par exemple, n'est plus vraiment initiatique. Le mariage devient minoritaire et donc cette étape qui était une manière en quelque sorte de signaler, je dirais, l'entrée dans une vie conjugale, adulte, etc., eh bien, n'est plus forcément majoritaire aujourd'hui. La vie professionnelle reste majoritaire, l'entrée dans la vie professionnelle. Et donc est-ce que cette sanction en quelque sorte de la réalité par le passage justement à la vie professionnelle et l'entrée dans l'entreprise, au-delà de la stricte utilité économique et professionnelle, ne revêt pas pour les jeunes justement cette dimension de rituel initiatique, ce qui expliquerait aussi bien du côté des jeunes et de l'entreprise l'aspect fantasmatique qui a été un peu dénoncé par Mathilde Nelgelen tout à l'heure, c'est-à-dire des attentes très fortes du côté des jeunes, avec parfois des déceptions. Du côté des entreprises, je dirais une capacité à faire un peu trop briller justement en quelque sorte ce que l'on est, avec aussi justement et pas forcément la capacité à assurer ensuite auprès des jeunes. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais est-ce que finalement, pour une classe d'âge, eh bien, cette entrée dans la vie professionnelle n'est pas une étape essentielle du devenir adulte? Et donc, ce qui signifie à ce moment-là, tout de même, même si l'entreprise a du mal, la nécessité d'un accueil humain et pas uniquement justement d'une intégration, calibrée, très adaptée à l'entreprise, aux besoins professionnels, etc. Est-ce que au fond, les jeunes n'ont pas besoin d'un accueil par les pairs? Et il y a quelque chose là qui n'est pas nouveau. C'était peut-être ce qui se passait entre le maître et l'apprenti dans les métiers d'artisanat que j'essayais d'évoquer tout à l'heure rapidement, etc. Mais qui, en tous les cas, resterait nécessaire malgré les évolutions professionnelles et les évolutions de cette fameuse génération donc Y dont vous parliez il y a quelques instants.
Oui, il y a peut-être un peu de ça. Et finalement, ce qui l'illustrerait le plus, je pense, c'est... parce qu'effectivement, dans les processus d'intégration ou d'accueil, il y a les choses très formalisées. On rentre dans une entreprise, on forme, voilà, l'organisation c'est ça, le métier c'est ça, etc., etc. Par contre, quand en complet, d'abord, on a quand même les équipes de RH qui sont là en général pour un petit peu baliser tous les schémas, et surtout le développement du tutorat, qui est une chose très importante pour moi, parce que le tuteur, il est là pour justement conseiller le jeune un petit peu de façon transverse. Il est là pour l'aider. Donc il est là pour l'écouter, il est là pour justement décoder l'entreprise, décoder un peu ses rites, finalement aussi, ses façons de faire, etc. Parce qu'il y a l'intégration telle que je viens de la décrire, mais il y a une deuxième forme d'intégration que je n'ai pas du tout développée parce qu'elle est extrêmement importante, c'est l'intégration par les collègues de travail. Parce que c'est la plus importante au plan opérationnel, on va dire. Parce que c'est les collègues de travail qui vont dire tu fais ça comme ça, ou bien non, quant à ça, tu t'adresses à ça, et un tel, il est, voilà, je te décode les gens, les managers, etc., etc. Ça, c'est l'intégration par les collègues de travail. Donc je crois que, il me semble qu'on a besoin, quand on intègre quelqu'un dans une entreprise, à la fois de ce qui est organisé, ça c'est indispensable, mais à la fois aussi d'avoir quelque chose qui coupe un peu les lignes traditionnelles. Alors je ne sais pas si c'est initiatique, mais c'est en tout cas différent du formel, quoi. Voilà. C'est de l'informel, c'est de la culturation.
Non, effectivement, le tutorat, c'est à mon avis quelque chose de très important et peut-être pas assez développé dans beaucoup d'entreprises. Mais le problème aussi, s'il y a un passage initiatique dans l'entrée en entreprise, c'est que si l'entreprise commence à l'institutionnaliser, il est plus initiatique, du coup. C'est ça le problème, c'est que ça va... Si, ça peut rester... j'ai l'impression que du coup, on va rentrer dans les processus formels d'intégration.
Et bah, par contre, je dirais, les rituels initiatiques dans toutes les sociétés sont au contraire, je dirais, de véritables traditions, sont des cérémonies instituées, etc. Alors, ce que vous voulez dire par là, c'est si l'entreprise s'en saisit et passe ça dans une moulinette, en quelque sorte, ce que vous appelez l'intégration, c'est-à-dire quelque chose de très formaté, hein, non pas formalisé, mais très formaté, c'est-à-dire très adapté donc à un poste donné, à des besoins particuliers, alors qu'effectivement la dimension initiatique comporte toute une dimension de valeur, d'accueil parmi les pairs, de reconnaissance. C'est ce que j'évoquais un peu en termes fantasmatiques, c'est-à-dire un certain nombre de représentations à travers lesquelles les jeunes peuvent se projeter comme effectivement appartenant au monde adulte et plus uniquement comme enfant. Alors, est-ce que l'entreprise, en quelque sorte, est-ce qu'au fond, ce que vous évoquez en termes de valeur d'entreprise et de culture d'entreprise, ce qu'on appelle en général la culture d'entreprise, est-ce que ça ne participe pas de cela, cette dimension humaine de l'entreprise qui, au-delà de son fonctionnement strictement économique, eh bien, ne répond pas, je dirais, dans notre monde aujourd'hui, à des besoins qui sont des besoins de toute société humaine, hein?
Je pense que vous avez raison, et y compris à travers les valeurs, parce que finalement, quand on rentre dans une entreprise, on ne quitte pas son état de citoyen aujourd'hui. Donc on a aussi besoin, me semble-t-il, dans l'entreprise, de... Mais il faut que ça ait un vrai sens après, c'est-à-dire qu'il faut, comme vous le soulignez tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit juste des mots, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça se traduise et que ça puisse être vu, quoi, parce que... je pense que les valeurs, c'est une chose importante. Nous, on travaille là-dessus, pas depuis si longtemps que ça, en communication. en gestion, oui, mais en communication, on a éprouvé à un moment le besoin de l'exprimer parce qu'il nous a semblé que ça correspondait. D'abord parce qu'on avait envie de le dire parce que c'était une réalité, et ensuite parce qu'il nous a semblé que ça correspondait à une attente, c'est-à-dire une attente de, voilà, je suis dans une entreprise, ok, il y a plein de choses à faire, je suis opérationnel, etc., mais je fais ça quand même dans un contexte où il y a autre chose que le strict besoin de l'entreprise et où on véhicule quand même dans le travail, avec ses difficultés, etc., un peu des valeurs de cohérence d'équipe, etc. Je pense que c'est important.
Mais effectivement, ce que vous faites comme travail avec les managers sur les valeurs, vérifier qu'elles soient vraiment apprises par eux au quotidien, je pense que ça, c'est très intéressant. Je ne suis pas sûre qu'on voit ça beaucoup dans beaucoup d'entreprises, qu'il y ait des actions concrètes pour voir l'application au quotidien des valeurs d'entreprise auprès des managers. Alors ça, je pense que c'est très très bon, une très bonne méthode, enfin un très bon moyen en tout cas de créer un lien avec cette jeune génération.
Oui, alors si effectivement cette dimension existe vraiment dans l'entreprise, il y a au fond cette part humaine, sociale, sociétale, etc., propre finalement à toute communauté humaine, mais peut-être aujourd'hui particulièrement représenté par les entreprises parce que justement il y a moins de communautés humaines à la disposition des jeunes. Est-ce que la volatilité que vous évoquiez tout à l'heure des entreprises, il y a la volatilité des responsables qui sont là aujourd'hui mais qui ne seront pas là demain, la volatilité de l'entreprise elle-même qui va délocaliser, qui va, je dirais, se séparer d'une partie de son personnel pour s'adapter, bien qu'elle fasse des profits ou que sais-je, etc. Est-ce que, précisément, ça ne représente pas un contre-témoignage et donc une tension très forte par rapport à cette part humaine et, en quelque sorte, je dirais, jusqu'où peut aller l'entreprise, que doit-elle préserver, que peut-elle préserver, justement, pour ne pas, en quelque sorte, casser cette dynamique ou cette attente du côté des jeunes en termes d'intégration, justement, dans ce monde adulte qu'ils attendent sans doute en venant dans l'entreprise et pas simplement, si vous voulez, donc d'exercice d'une activité professionnelle. Ce que d'ailleurs on leur reproche pour un certain nombre d'entre eux, sortant par exemple d'école de commerce, on leur dit, on leur reproche d'avoir uniquement un plan de carrière à la place du cerveau ou à la place de la volonté, etc., ou du désir. Et précisément, là, on sent qu'il y a une tension. C'est-à-dire que si effectivement l'entreprise devient à un point volatile, à ce moment-là, je dirais difficile d'attendre autre chose du côté des jeunes qu'un plan de carrière, quoi.
Je pense surtout que les entreprises sont toutes différentes. Donc une entreprise qui a besoin pour survivre de se délocaliser, une entreprise qui a besoin pour survivre de faire des plans sociaux, une entreprise, voilà, chaque entreprise est différente. Par contre, je pense qu'il y a une constante finalement dans ce qu'on peut faire. Nous-mêmes, on a vécu des opérations de fusion, etc., etc. Je crois que ce qui est très important dans les entreprises, c'est vrai pour tout le monde, pas que pour les jeunes, mais quand même, ça reflète déjà ce qu'on est et la volonté qu'on a de faire comprendre les choses, finalement, hein. C'est de les expliquer. Et on est toujours surpris par le besoin et par l'importance de la communication sur ce qu'on va faire. Parce qu'une entreprise qui fonctionne bien, j'allais dire déjà, elle a ça pour elle. Mais une entreprise qui est confrontée à des difficultés, quand elle est confrontée à des difficultés, il faut qu'elle communique avec ses collaborateurs, je veux dire, c'est les prendre pour des gens responsables, et ils le sont. Et on a souvent peur de cette communication, parce que quand elle est annonciatrice de mauvaises nouvelles, on la craint, et en fait, bien sûr qu'il faut la craindre, parce qu'on n'aime pas annoncer de mauvaises nouvelles, mais néanmoins, on a toujours intérêt à dire les choses, parce qu'on a en face de nous toujours des gens qui sont des adultes, vous l'avez, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils sont adultes, et voilà. Donc je crois que après, par rapport au sujet des valeurs et par rapport les vraies valeurs, voilà, c'est de dire la réalité d'une situation. Voilà, je crois que c'est un peu ça.
Alors moi, j'avais une autre question que je me posais en réfléchissant à ce sujet. C'est finalement jusqu'à quand on est jeune en entreprise ? J'ai l'impression qu'on est jeune de plus en plus tard et vieux de plus en plus tôt, ou trop vieux de plus en plus tôt. Il y a la notion de junior enfin, je ne sais pas. Alors du coup, je ne sais pas comment ça se passe. Après, je pense que c'est différent, effectivement, toujours d'une entreprise à l'autre. Mais peut-être un exemple dans votre entreprise. Jusqu'à quand vous considérez que les jeunes sont jeunes?
C'est un exercice périlleux. Je dirais que les politiques d'intégration, grosso modo, c'est jusqu'à... On va considérer que les gens ont besoin de tous ces processus jusqu'à à environ 30 ans, on va dire. C'est-à-dire les jeunes débutants ou primo-expérimentés. Voilà, c'est pas parce qu'un jeune arrive avec une expérience professionnelle qu'il n'a pas non plus... Il n'y a pas que les gens qui sortent du système... voilà. Tout le monde a après besoin d'intégration. On embauche quelqu'un de 40 ans, de 50 ans, il a besoin d'intégration. Mais c'est pas pareil. On l'embauche déjà voilà, sur des compétences avérées, etc. Donc déjà, il est, si je puis dire, sécurisé par son savoir-faire, ce qui n'est pas le cas des jeunes qui arrivent. Donc les politiques vis-à-vis des jeunes un peu particulières en suivi de carrière, rémunération, etc., avant de rejoindre les politiques un peu plus globales, on va dire que c'est plutôt avant 30 ans et voilà, autour de 27-28 ans. C'est encore un peu différent pour les filles et les garçons, donc ça c'est une autre question.